Bienvenue dans le Macané Plus, qui vous apporte le meilleur de la vaste archive pédagogique de l'évangéliste guérisseur, auteur à succès et pasteur de la méga-église, Dag Uwemiers.
Alléluia. Père, nous sommes si excités ce soir pour ta direction merveilleuse de ton esprit. Conduis-nous. Nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse tous de vous être connectés. Souvenez-vous, on est sur Intelsat 20, IS 20, satellite 68.5 degrés à l'est. Ce que vous devez faire, c'est prendre votre téléphone, votre iPhone, et vous regardez la boussole et ça va vous montrer l'est. L'est, c'est à droite et vous mettez juste 68 et vous tournez à ce moment-là le satellite en la bonne direction. Et vous allez recevoir IS 20. Et c'est tout ça, c'est dans toute l'Afrique. Même au Ghana, au Nigeria, partout. Et donc, s'il vous plaît, connectez-vous. Ça vous aidera à économiser vos data. Pas être non un novice, c'est le sujet. 1 Timothée chapitre 3, et on va lire à partir du verset 1. 1 Timothée chapitre 3. Et c'est une courte étude biblique, mais je crois que c'est important. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'un évêque, il désire une bonne tâche. Amen. C'est important de savoir que le désir est spirituel. Les désirs sont spirituels. Ok? Et donc, faites attention à vos désirs également. Pas juste vos fautes, mais également vos désirs. D'accord? Observez vos désirs. Pourquoi est-ce que je dis que les désirs sont spirituels? Parce que quand Dieu voulait punir la femme, il a puni avec un désir. Et il a dit, tes désirs se tourneront vers ton âme comme punition. Donc, elle a désespérément reçu un impact d'un désir qui est transmis à toutes les femmes. Et ce désir pour un homme amène à tous les problèmes, après tous les problèmes qu'une femme a sur la terre. Ok? C'est un désir pour l'homme, pour le mari. Et c'était une punition. C'est pas quelque chose qui est venu naturellement. Elle n'avait pas ça avant qu'elle tombe. Quand elle est tombée, et comme part de la punition dans Genèse chapitre 3, c'est là, vous allez trouver ça. Il a dit, tes désirs se tourneront vers ton mari. Et donc, le désir à la longue a une mauvaise réputation. Le désir a une mauvaise réputation parmi les chrétiens. Ok? Genèse 3, 16, ça dit, à la femme, il dit, je multiplierai tes souffrances. Et j'aimerais que vous voyez les listes dans lesquelles les désirs tombent. Ça tombe dans une liste malheureuse de mauvaises expériences. Regardez, ça dit, donc multiplier, tristesse, multiplier la douleur de la conception, La souffrance sur le fait d'amener les enfants, les désirs vers le mari sont tous dans le même groupe. Des punitions qu'on ne comprend pas la longueur et l'essoufflement de cela jusqu'à qu'on voit ça en action. Donc, les désirs ont depuis longtemps eu une mauvaise réputation parce que souvent ça amène ça vers des problèmes. Mais vous devez reconnaître que s'il n'y avait rien de cela, les désirs sont également une des impacts spirituels. Quand je dis une impact spirituel, c'est que quelque chose qui vient de Dieu. Et donc, quand je dis un désir, quand tu as un désir pour certaines choses, une des personnes qui peut vous donner le désir, c'est Dieu. Ok? Et donc, c'est pourquoi il a dit à Timothée, si un homme désire la charge d'un évêque, ce désir vient vers de lui, ça montre un signe de l'appel de Dieu envers la personne. C'est probablement un des plus grands signes. Pour moi, dans le ministère, j'ai été dans cette même église, dans cette même œuvre, depuis à peu près 35 ans. Et si vous me demandez une seule chose, que j'ai trouvé comme indicateur consistant de l'appel des gens, c'est le désir, c'est juste le désir. La plupart des pasteurs laïcs ont ce désir. Certains d'entre eux ont même beaucoup plus que les gens qui disent qu'ils sont dans le ministère à plein temps. Parce que l'appel est énorme. L'appel est quoi? Il est énorme. Dites dans ta maison, énorme. Je veux entendre depuis ta maison, énorme, un désir énorme. Parce que c'est un appel énorme. Et donc ce désir, quand vous commencez à vous lancer dans ce désir que vous avez, ce désir spirituel, je ne dis pas le désir pour la nourriture, pour ce genre de choses. Ça, c'est également des choses qui œuvrent en nous, qui nous dirigent et qui nous aident à savoir ce qu'on doit faire parfois. Mais ce désir pour être dans l'œuvre du ministère, c'est une chose très importante. Ne ignorez jamais cela. Parfois, pour avoir le désir de voir quelqu'un ou parler à quelqu'un ou écouter à quelqu'un ou aller proche de quelqu'un, et ces désirs, parfois, c'est Dieu qui vous attire vers où est sa volonté. J'ai un livre qui s'appelle Comment bien remplir votre appel ou comment bien remplir votre ministère. Dans ce livre, comment bien remplir votre ministère, c'est je parle de différentes choses mystiques qui vous font accomplir votre ministère. Et une de ces choses, c'est le désir. Si vous respectez les désirs, il y aura plus de chances que vous allez bien remplir votre ministère. Et il dit, ce livre juste là. Est-ce que vous voyez? Comment bien remplir votre ministère? Et chaque chapitre parle de un des mystères. Vous voyez? Les choses mystiques qui font que les gens remplissent leur ministère. Si vous pensez que vous allez voir Jésus dans vos visions, remercie Dieu pour ta foi. On remercie Dieu pour ta foi, mais ces choses, les désirs, être attiré, la séparation, etc., sont tous des choses incroyables qui vous ramène dans l'accomplissement de votre appel. J'étais attiré vers Yonggi Cho et c'est ce qui m'a fait aller en Corée. Ça fait partie. J'étais attiré. Vous comprenez? J'ai désiré les choses et ça m'a attiré vers les gens. J'ai désiré des gens. J'ai désiré des personnes. Oui. Magnifique. Un évêque doit être irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, qui se donne à l'hospitalité et capable d'enseigner. D'accord? Et donc maintenant, après qu'on ait découvert nos qualités, vos désirs, après on voit avec quelques choses pratiques qui sont basiquement des conseils pratiques. Donc c'est là où la polygamie est questionnée. Vous voyez? Parce que la polygamie a toujours été acceptée dans la Bible. C'est le seul endroit où c'est questionné pour les pasteurs. pour un, en fait, pour un évêque, et donc peut-être des révérends et les pasteurs, ils sont peut-être exemptés de ce verset. Je ne sais pas si les apôtres sont affectés par cela. D'accord.
Now, number three.
Numéro 3.
Not giving to wine.
Il ne doit pas se donner au
not
à l'alcool, au vin. Il doit, ce ne doit pas être quelqu'un qui est dans l'alcool, qui n'est pas cupide. Et toutes ces choses sont brisées à chaque fois par les gens qui sont dans le ministère. Patient. Beaucoup de personnes impatientes qui ne sont pas attirées par le gain ou par l'argent. Il y a beaucoup de ça dans le ministère. Et quelqu'un qui dirige sa, bien sa maison et qui tient ses enfants dans la soumission et un entier respect. Beaucoup de personnes ne dirigent pas bien leur maison. Ils sont durs. Ils ne dirigent pas leur maison. Et donc, encore une fois, c'est une autre chose, une des choses, une des consignes qui était brisée. Et si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Verset 6, c'est là où on est intéressé. Il ne doit pas être un novice. De peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du diable. Maintenant, au lieu de mettre de ne pas être aveuglé par l'orgueil, ou si on garde ça ici, on va se demander quand est-ce que l'orgueil se développe. L'orgueil se développe quand on est présent pendant un certain temps. Vous savez, quand vous allez à un nouveau emploi, vous êtes tendu, vous êtes appréciatif, vous vous habillez très bien, vous dites « Oh, merci pour l'opportunité ». Vous posez des questions et vous n'êtes pas sûr de vous-même, vous vous étonnez. Si vous faites les bonnes choses, vous faites très attention, vous êtes content d'être présent, vous remerciez Dieu tout le temps. Mais avec le temps, c'est comme si vous êtes le propriétaire, vous savez tout, vous savez ce qui se passe, vous êtes relax. Et vous prenez tout à la légère, surtout quand les bonnes choses sont faites de manière à la routine. Après un bout d'un moment, les bonnes choses nous prennent. Et on se dit, attention, les choses vont se passer de toute manière. Et donc, on ne voit plus ça comme des bénédictions. Donc, quand on est là pendant un certain temps, il y a trois choses qui se passent aux gens qui ont été présents pendant un certain temps. Et c'est ces trois choses qui poussent les gens à tomber dans la condamnation du diable, qui est la condamnation de l'orgueil. Numéro un, c'est le péché. Quand vous faites une erreur, ok, et que vous péchez. Le péché est un événement spirituel. C'est une couverture noire spirituelle qui tombe sur vous. Et donc, les gens qui marchent dans le péché ou qui vivent dans le péché ont un démon bien placé dans la maison. Et donc, ça ouvre la porte à de nombreux autres mal. Rarement, on va voir un homme avec un seul problème. C'est comme les problèmes médicaux. Rarement, c'est un seul problème. La plupart des gens qui sont dans la salle d'opération, ils ont également, qui sont admis dans le bloc d'urgence, ils ont également la malaria. Parce qu'il y a beaucoup de moustiques et la plupart ont été piqués par des moustiques. Donc, la plupart des maladies qu'ils ont, ils ont les maladies, en plus de ça, ils ont la malaria. Rarement, ils ont juste un seul problème. Et ils ont également d'autres choses. Et c'est pour ça que même ce virus corona, beaucoup de gens qui proclament être morts de cela, si c'était au tribunal, il y aurait une question sur quoi, qu'est-ce qui tue exactement les gens? Parce que la plupart des gens avaient d'autres problèmes également. Et donc c'est comme si, qu'est-ce qui les a tués? Qu'est-ce qui a tué les personnes? Je suis sûr, également le cas avec la personne de cet homme qui a été tué par ce policier. Ils vont venir avec différentes défenses Et puis les gens ils vont donner d'autres excuses. Ah, il avait le corona, ah, il avait la drogue, ah, il y avait ceci, il y avait cela. Et donc au tribunal, il y aura toujours des questions sur qu'est-ce qui a vraiment tué la personne. Donc comment est-ce qu'on est arrivé dans ça? C'était quoi le sujet? Donc le péché est la première chose. Il y a toujours quelque chose qui amène d'autres problèmes. Et ça se passe. Et donc, vous voyez, quand vous êtes nouveau ou vous êtes jeune ou humble, votre première réaction, c'est « je suis désolé ». Oui, c'est vrai. Je suis quoi que je suis un tel. Et, mais quand vous êtes orgueilleux que vous péchez, ça devient quelque chose d'autre. Beaucoup d'explications, beaucoup de discussions, beaucoup de raisonnements, beaucoup de choses. La deuxième chose qui se passe, c'est la croissance. Quand vous grandissez, vous savez, ce qui se passe, c'est que vos orteils sont plus grands. Et donc, vos anciennes chaussures ne passent plus. Et donc, du coup, ça fait mal aux pieds. Et donc, il y a quelques douleurs qui viennent. Par exemple, également, les enfants pleurent quand leurs dents poussent. C'était à 6 mois. Quand la dent commence à pousser, les dents commencent à pousser, ils commencent à avoir des réactions. Et donc, quand tu grandis, ils disent, « Oh, toi, va là-bas. Toi, on te déplace là-bas. On va au bout du monde. Toi, va là-bas. Toi, vers cette personne. » C'est là où tu vois l'orgueil qui sort. Vous comprenez? Et on voit également que les gens réagissent à la croissance. Et l'autre chose également, c'est la correction. La troisième chose, c'est la correction. Quand les gens deviennent grands à leurs yeux, ils réagissent négativement à la correction. Quand vous les corrigez, il y a une réaction. Il y a une sorte de réaction. Tu peux pas parler comme ça. J'étais une fois dans un certain pays pour une croisade dont le nom commence par, avec une des lettres de l'alphabet. Et le directeur de la croisade, il parlait au pasteur. Et dans ce pays, les pasteurs, je ne sais pas comment ils se sentent, très grands, etc. Mais bon, je veux dire, à différents endroits, les pasteurs se tenaient. Ne bouge pas ta main comme ça. Le pasteur, il expliquait juste comment est-ce que la croisade se passe. On va faire ceci, cela. Puis ils ont dit, oh, bouge pas ta main vers nous comme ça. Tu ne parles pas comme ça. Notre avis également. Tu peux pas venir de ton pays et puis nous dire ce qu'on va faire ici. Oh, désolé. Vous savez? Et donc, quand vous vous sentez grand, vous voyez ce que je veux dire? Vous ne réagissez pas bien à la direction, à la correction, à quoi que ce soit. C'est une réaction, mais habituellement, c'est une personne qui pense qu'il est grand, mais en fait, elle est petite. L'orgueil, c'est ce qu'on appelle être enflé. Et quand vous êtes enflé, c'est pas votre vraie taille, vous voyez? C'est un syndrome néphrotique. Votre tête est devenue ronde, votre corps est gonflé, votre abdomen est plein d'eau, vos pieds sont gonflés, et ce n'est pas une croissance normale. Bien que vous ayez l'air beaucoup plus rond, beaucoup plus en rond, tu penses que tu vas bien, mais tu penses que c'est doux et tout ça, mais c'est pas bien, c'est pas doux, c'est une maladie. La Bible dit qu'ils sont enflés, 1 Corinthiens verset 13, chapitre 13. Et donc, ça, c'est pas une vraie grosseur. Et beaucoup de gens ont cette grosseur et c'est actuellement une maladie. C'est que la personne, en fait, elle n'est pas bien. Et donc, la grosseur que la personne sent, c'est une maladie. Et cette grosseur, la personne réagit à la correction, elle réagit à la croissance, elle réagit même quand la personne est pauvre, quand il y a un problème. Et que tu essaies de traiter avec ça, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent à cela. Tu vois? Et donc, c'est là où tu vois rarement un péché sans l'orgueil. Et ça rend encore les choses plus difficiles à traiter. Et donc, n'oubliez pas cela. Maintenant, les novices, il dit, vous ne devez pas tomber dans la condamnation du diable. Un novice signifie une personne qui est nouvelle dans les circonstances. Une personne qui fait un travail pendant un court instant qui n'est pas expérimenté, qui est un esclave qui est fraîchement importé. Une personne qui est dans une nouvelle condition, une découverte récente. Toutes ces choses sont être novice. Et donc, il y a des novices dans la Bible auxquels on a regardé la dernière fois. On est allé à différentes personnes qui étaient des novices. Le fils de Élie, Rehoboam, le fils de Salomon, c'était une nouvelle personne, n'est-ce pas? Ces nouvelles, et il y avait beaucoup de belles filles et le père était là pendant des années et puis il n'est pas tombé. Et eux, ils ont, et les fils, ils ont vu les filles, ils ont dit « Waouh !» Et c'était ça, ils étaient condamnés. Et ils ont pas vu également l'argent auparavant également. Et donc, l'argent qui était apporté à l'église, ils n'ont pas vu tel d'argent auparavant et ça les a touchés directement. Et il y avait également les fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Ils ont fait des choses qui n'étaient pas acceptables, qui n'étaient pas partir de la, à la culture et qui n'étaient pas dans les l'ordre des choses qui devaient être faites. Et ils étaient également rejetés, ils sont morts. Et on a eu également Absalom qui était nouveau dans le palais. Il n'était même pas capable de rester pendant une semaine en tant que roi. Tu vois? Et il était détrôné. Il ne pouvait pas s'asseoir sur la chaise sur laquelle il devait s'asseoir. La chaise était très grande pour lui. Et quand il s'est assis, il a vu la femme de son père. Et il est également devenu fou. Il a dit, « Hey, wow, j'ai besoin de la lumière pour... » Et il est devenu complètement fou. Et sa coupe était pleine et son jugement était rapide. Et on a eu Ruth. Ruthie également, elle était toute nouvelle, une femme toute nouvelle dans la ville. Une Moabite, elle est venue en ville. Elle n'avait pas de mari. Et c'était une novice sur comment traiter avec un homme et comment vivre avec un homme. Ok? Un jour, une femme, on lui a demandé si elle allait se marier à nouveau. Et la réponse qu'on lui a donnée, je peux pas dire, mais à part de ce qu'elle a dit, que je ne peux pas dire, vous comprenez ce que je veux dire? Elle a fait un commentaire sur certains travaux ou tâches qu'elle a fini de faire à vie et qu'elle ne va pas retourner dans cela. C'est comme si elle est à la retraite. Elle a dit si je pouvais en avoir un homme pour m'acheter un Pajero et m'amener autour du monde pour des vacances, j'aimerais cet homme. Mais à part ça, il y a certaines tâches que je ne peux pas faire. Et j'avais un mari, et puis le mari il était mort quand j'ai fait cette tâche. Et j'étais infirmière. Donc c'est une personne expérimentée qui parlait. Beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles doivent pratiquer être infirmière à la fin de leur vie. Il se peut. Mais une personne inexpérimentée va juste penser à certaines choses. Donc, sans savoir ce qu'il y a dans le mariage, cette femme expérimentée, elle a parlé du Pajero et également de du tour du monde. Et si elle avait ces tours, et donc oui, elle va considérer cela. Et donc elle va faire le tour du monde. Et alors qu'elle fait certains commentaires sur certains aspects, sur le travail d'Anne qu'elle a fait pendant des années, elle va dire non, j'ai fait ma tâche. Et donc elle parlait d'expérience sur ce que c'est d'être marié. Ok? Maintenant, d'autres novices, les apôtres, numéro 6. Un novice, c'est quelqu'un qui se querelle sur les mauvaises choses. Ok? Dans Luc 22, verset 24, ça dit, et il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand. Ça, c'est juste avant que Jésus aille à la croix. La nuit avant. C'est de ça dont il parlait. Jésus leur dit, les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que ça ne soit pas votre cas. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Et donc, les novices se battent se querellent sur des choses inutiles. Ok? Donc, quand vous êtes un novice, vos yeux sont sur les mauvaises choses. Vous comprenez? Parce que vous ne savez pas ce qui compte. Amen. Parce que vous pensez, ce qui compte, c'est cela. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un, tu vois ton travail? Choisis lequel de ces travaux tu veux faire parce que tu vas changer de travail. Ceci ou ceci ou ceci. Choisis lequel tu veux. Pour voir l'appréciation de la personne et la réalisation de la personne dans les différentes tâches que la personne fait, dans lesquelles qui sont valables actuellement, qui ont la valeur actuellement pour la personne. Parce qu'à ce moment, tu ne sais pas ce qui est important pour la personne. Et donc, parfois, tu peux aller vers les choses qui ne sont pas vraiment importantes. Une fois, quelqu'un est venu vers moi, il m'a dit, on m'a proposé un travail, on m'a proposé un deuxième. Un, il est là-bas, et l'autre, il est là-bas. Mentionnez certains hauts, grands noms. Et je dis, lequel? Et la personne m'a dit, je vais gagner ceci dans ce travail-là. Et j'ai gagné cela dans ce travail-là. Dans ce travail-là, je suis à ce niveau. Donc, il a mentionné un haut niveau, mais à ce travail, je suis à un niveau bas. Ce n'était pas difficile pour moi. J'ai dit, prends celui-là, le plus bas. Pourquoi? J'ai dit, parce que avec les gens avec qui tu as travaillé. Choisis celui-ci, parce que tu as travaillé avec des meilleures personnes dans celui-là. Et c'est passé comme je l'ai dit. Vous ne devez pas être impressionné avec s'il mentionne chef principal de quelque chose. Ça ne va pas t'impressionner. Les grands titres ne signifient rien du tout. Chef principal du protocole de quelque chose. Et quoi? Et puis quoi? Où ça t'amène? Cet autre travail, même si tu n'aurais même pas eu un titre, mais ça a amené la personne plus proche à une personne importante. Et vraiment, c'est un travail important. Et la personne n'était pas trop contente avec la suggestion parce que c'était moins d'argent avec un titre plus bas et avec un bénéfice, ceci, cela. Et donc, un novice est impressionné par ce genre de choses. La prospérité ne vient pas des salaires. C'est plus que cela. Tu vas voir avec ça avec le temps. Il me parlait de certaines bénédictions. Une personne me disait à certaines bénédictions, je lui dis, tu vois tout ça? Tu vois que la prospérité ne vient pas du salaire, toi tu crois pas. Et tu verras ça pratiquement. Et je dis, que Dieu te bénisse. Félicitations. Et donc les novices sont impressionnés avec les choses. Quand mon père est décédé, on a tous eu notre héritage. Mais j'étais mis de côté sur une certaine partie de l'héritage. Oui. Mais ça m'était égal. La partie de l'héritage qu'on m'a mis de côté, c'était sa voiture. Sa voiture était donnée à d'autres personnes. Mais moi, je n'avais pas de voiture. Je dis, oh, pas de souci, une voiture. Voiture. Quand tu conduis, c'est déjà vieux. C'est déjà vieux le premier jour. Conduis, essaye de vendre et vois. Et vois. Juste une personne qui touche, tu vois, la valeur, elle descend déjà. Un novice se querelle sur les mauvaises choses. Et qui va être le plus grand? Qui va être ceci? Qui va être cela? Vraiment, si vous êtes mature, vous n'aurez pas ce genre de discussion. Parce que parfois, vous allez voir le niveau du niveau des personnes basé sur les discussions qu'ils ont. Qu'est-ce qui est important pour eux? Un novice, numéro 2, n'est pas impressionné. Un novice est impressionné sur les mauvaises choses. Et donc, Luc 10, 17, la Bible dit, les 70 sont revenus dans la joie. Les 70 sont revenus tout joyeux et dire, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, J'ai regardé Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas. Non, en gros, c'est pas ça dont vous devez être heureux, que les esprits vous sont soumis. Mais plutôt, réjouissez-vous parce que votre nom sont écrits dans le ciel. Donc, Jésus pointait sur quoi est-ce qu'il faut être impressionné, sur quoi il faut être heureux. Que c'est beaucoup plus grand, le salut est beaucoup, c'est quelque chose de très, très grand. Vous voyez, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont mis de côté le salut. Que ton nom est écrit dans le ciel. C'est comme si, oh, c'est un sujet basique. Nous, on est dans, les couloirs de la puissance. On est dans les agendas et les couloirs. Wow. Les portes de l'éternité. Nous, on est dans les révélations profondes. Mais le salut, c'est les bases. Vous savez, ça c'est l'opposé. En fait, c'est l'opposé de ce que Jésus voulait montrer. Il a dit juste, ah, les démons c'est bien, ok, qui sont chassés, tout ce qui se passe c'est bien. Mais ce dont vous êtes heureux, c'est le salut. Et donc, c'est pas un signe d'immaturité ou un signe de manque de révélation, mais c'est plutôt un signe de maturité que vous soyez heureux et solide sur le salut. Oui. C'est un novice qui se dit que, oh, il est élevé parce qu'il a chassé des démons et plein d'autres choses. Mais qu'il a mis de côté ce qu'il appelle les bases du salut. Regarde dans les églises. Regarde les églises qui accentuent sur le salut. Ils sont solidement plantés sur la terre. Pur salut. Le salut pur. Et je disais l'autre jour, et je dis pas ça pour impressionner, mais la vérité est que nos pères catholiques, parce que l'Église catholique, c'est les pères de toutes les églises. C'est pas nos frères et sœurs, ce sont nos pères. Juste ça fait des pères. Ils ont récité tout la naissance de Christ. Comment est-ce qu'il est né la naissance virginale? Et quand même le credo des apôtres, né d'une vierge, de ceci, cela, souffert sous Ponce Pilate, crucifié, mort, enterré, souffert, ressuscité le troisième jour, assis à la droite du Père, et il jugera les vivants et les morts. Je crois en Dieu le Père. Je crois en l'Église, à la Sainte Église catholique. Ça, ce sont les bases. Des choses basiques à notre foi. Et ils nous ont aidé à répéter ce que tu penses que c'est les bases. Parce que sinon, l'Église perd la raison pour laquelle elle existe et comment est-ce qu'elle a existé. Et elle a répété ses paroles encore et encore et encore et encore. Partout, que ce soit l'onction, qu'il y ait les chutes et tout ça. Eux, ils disent et on les dit tous. Oui, et à Pâques, tu vas entendre parler de Jésus. À la Pâques, tu vas entendre parler de Jésus. Vrai ou faux? Et on les remercie pour cela. Et quand tu vas à la Terre Sainte, tu vas les apprécier encore plus. Tous les lieux importants, ils ont bâti une grande église là-bas. Grande! Quand tu vas là-bas, tu ne sais pas ce qu'ils font là-bas, mais tout ce que... Jésus a prêché le sermon sur le mont. Ils ont bâti une église là-bas. Jésus a dit, oh Jérusalem, ils ont mis une église là-bas. Jésus, il a pris dans le jardin de Gethsemane, ils ont mis une église là-bas. Partout, il y a une église. Pour que tu puisses marquer et puisses avoir, tu dis que c'est le meilleur monument qu'on puisse avoir. Magnifique. Et donc, la Terre Sainte est remplie de ces belles églises qui nous rappellent. Et la plus grande des églises est au Calvaire, où Jésus a été crucifié. La plus grande, énorme, énorme, où il a été crucifié, où il y avait la croix. C'est la plus grande, au top de la au tout en haut de la montagne. Et partout, il y a des églises, pour se souvenir. Et donc, s'ils n'ont pas fait cela, les bases de la chrétienté seraient parties. C'était il y a 2000 ans. Et donc, les bases pour lesquelles Christ se tient, et les bases du salut, tu vas penser que tu es mature de cela, mais tu ne peux pas maturer, tu ne peux pas sortir de cela en étant mature. Et donc, un novice pense que, oh, il a une nouvelle idée. Oui. Et c'est comme ça qu'on a tous ces chrétiens bizarres qu'on a aujourd'hui. Et donc, les apôtres, amen, étaient des novices parce qu'ils étaient impressionnés sur les mauvaises choses. Quand vous êtes un novice dans le ministère, vous êtes impressionné avec les voitures. Vous êtes toujours impressionné sur quelque chose qui n'est pas important. Quelle est l'utilité d'une voiture qui est automatiquement qui perd de la valeur à partir du moment qu'elle sort? Tu es impressionné des voitures, maisons, argent, habits, des choses dont tu ne devrais pas te soucier. Le voyage, des choses dont tu ne devrais pas te soucier, l'argent. Tu es tellement impressionné par cela. Mais Jésus a dit, non. Ne sois pas impressionné de cela. Quand tu es un enfant, tu es impressionné avec les choses totalement différentes. De quoi est-ce que tu es impressionné quand tu es un enfant? La couleur de ta chemise. Où est-ce que tu as assis dans la voiture? Qui se lave le premier? Les jouets en voiture, les téléphones, qui est le plus grand, et toutes ces choses qui ne comptent pas. Aujourd'hui, au lieu de qu'est-ce qui compte, ce qui ne compte pas est glorifié. Ce qui compte, vous savez, quand tu as commencé à prier pour les nations, pour la prière du flot, un ami pasteur m'a appelé et m'a dit: aucun pasteur devrait dire qu'il a un ministère mondial. Il disait, quand il priait, il a mentionné ça. Il a dit, c'est ville après ville après ville après ville dans tous les pays. Et il m'a dit qu'un pasteur devrait faire attention avant qu'il dise qu'il a un ministère mondial. Quand il avait vu à la réunion de prière, il a vu toutes les villes qu'on citait, il a dit, mais qui en fait a un ministère mondial? Personne n'a un ministère mondial, un ministère global. De quoi est-ce que tu parles? Nous sommes si impressionnés avec rien du tout. Vous savez ça? Vous êtes impressionnés avec rien du tout. Impressionnés avec les choses. Les disciples, ils étaient impressionnés. Oh, les esprits nous sont soumis. C'est pas ça qu'on doit être impressionné. Vous devez être impressionné sur les bonnes choses. Et donc, que nos cœurs se tourne vers ce qui est vraiment impressionnant et impressionnant envers Dieu. Et je crois que aimer Dieu, c'est très impressionnant. Si vous aimez Dieu. Numéro 3. On arrive vers la fin. Luc chapitre 22. Les novices, ils ne savent rien au sujet de la déloyauté et de la traîtrise. Luc 22. Les novices ne savent rien. Ne savent pas grand chose sur la loyauté. Au cas où, de passage, être novice, c'est pas au niveau de l'âge. Oh, lui, il a tel âge. Non. Non. Luc 22:20. Après le souper, il prit le même la coupe et la leur donna en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est fixé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Ils commençaient à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux ferait cela. Lequel d'entre eux ferait cela? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit dans Jean, À partir du verset 5, la Bible dit que Jésus savait qui allait le trahir. C'est dans Jean. Il savait qui est-ce qu'il allait le trahir. Depuis un long moment, il a su. Et il a marché avec eux pendant un long moment, sachant qui allait le trahir. Ça, c'est incroyable, n'est-ce pas? Jean chapitre 6, oui, verset 64. Il y a certains d'entre vous qui ne croient pas, parce que Jésus savait depuis le début qui ils étaient, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Ça, c'est chapitre 6, et ça va jusqu'au chapitre 21. Ça, c'est dès le début. Jean 3, 16, après on va à 4. Après 4, c'est la femme de Samarie. 5, c'est l'homme qui était guéri près de la piscine de Bethesda. Et là, on est au chapitre 6. Et il savait déjà là qui allait le trahir. Mais un novice a aucune idée. Vous comprenez sur la loyauté et sur la traîtrise. Quand vous dites, les livres sont comme des histoires. Quand tu dis l'histoire, tu n'arrives pas à croire que ces choses sont vraies. Où sont ces gens? Ce matin, je lisais le fardeau sur être un berger. Je lisais juste au travers du livre. J'ai décidé de lire mes livres à l'église parce que j'ai senti que ça me va mieux de lire un livre que j'ai écrit il y a 20 ans. Vous savez, le premier livre que j'ai écrit en 1998, c'est là où j'ai écrit le livre La Loyauté. Le premier livre, c'était sur 1998. C'était 22 ans auparavant. C'était il y a 22 ans auparavant. Certains d'entre vous n'étaient pas nés. Et donc, sur ce livre sur qu'est-ce que ça signifie d'être un berger, il était présent, ça fait un long moment. Et ça s'appelait les laïcs et les ministères. Donc, ça faisait un long moment. La Bible dit que Jésus savait. Et donc, je pense que plus tu es un novice, plus tu ne comprends pas la loyauté, tu ne comprends pas la déloyauté, tu ne comprends pas la traîtrise. Même ce que je comprends aujourd'hui, c'est différent de ce que j'ai compris, ce que je pensais avoir compris. Parce que alors que tu grandis, tu vas réaliser que toutes les choses dans la Bible sont vraies. J'ai un chant. Je crois que si quelqu'un a chanté, il y aura des jours tristes. C'est comme, tu vas traverser ce que Jésus-Christ a traversé. Pour être comme Jésus, tu dois marcher sur le Via Dolorosa. La rue de la peine. Et donc, un novice ne sait pas. Une fois, j'ai prêché sur la loyauté. Et quelqu'un me disait, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a un problème? J'étais stressé. Un autre personne m'a appelé. Il disait, j'étais inquiété pour ta santé. J'avais un camp à Elmina. Et la personne me disait, j'étais inquiet sur... Vous savez, quand vous étendez pas, vous ne grandissez pas, vous n'allez pas savoir ce genre de choses. Je veux dire, mais de quoi que tu parles? On est là, on est content, on suit. C'est quoi la loyauté? On a des dîners, on a tout marche, il y a des miracles, il y a des morts qui sont ressuscités, tout se place. De quoi est-ce que tu parles? À chaque fois, loyauté, déloyauté, ceci, cela. Mais plus tu grandis, tu réalises que tous les films que tu regardes, et je pense que ça fait tellement partie de la nature humaine. Les gens, ceux d'entre vous qui regardent les films nigériens, vous allez voir plein de choses tourner. Vous ne regardez pas les films nigériens? Oui, j'ai regardé quelques films nigériens. Et tu vas voir que finalement ça change. Tous les films, il y a quelqu'un dont tu fais confiance dans la personne, va se tourner, tu ne crois pas que la personne elle est surprise, et tu vas dire Air Force One, le film Air Force One, là où où il se battait à la partie finale et le président il sortait. Et il faisait confiance à la sécurité, puis en fait, c'était la personne qui était dans la sécurité, puis il a dit, toi, je faisais confiance avec ma vie, je te faisais confiance. Et tous les films, c'est comme ça. Et donc, tu vas savoir que c'est que tu marches au milieu de cela. Et Jésus savait que même si ses disciples marchaient avec lui, ce traître, ce caractère, dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, vous allez être choqués de trouver tous les traîtres, tous les traits que vous allez voir pratiquement. Vous savez, des années auparavant, on a eu un culte à l'église à Genève. Et un homme expérimenté, on l'a invité pour prêcher. Il a prêché, puis après on a eu un dîner. Au dîner, il a parlé. Il a dit, ça c'est un bon moment dans l'église, mais un temps vient, ce ne sera plus comme ça. Ceci va se passer. Comme s'il me disait. Mais il disait juste d'expérience. Et tout ce qu'il disait, ça s'est passé.
Oui.
Tout ce qu'il se disait, c'est passé. L'église est devenue une source de disputes, de querelles que je n'ai jamais vues auparavant.
Oui.
Il est expérimenté. Tu vois. Et donc, c'est pour ça, vous savez, qu'un leader doit se durcir pour faire face à toute forme de déloyauté et toute forme de traîtrise. Voyez, avec une force égale et opposée. Oui. Vous devez faire de vous un ennemi que les gens n'aimeraient pas avoir. Dans le sens où les gens vous préférez avoir comme ami que ennemi. Non, c'est pas. Parce qu'il y a des gens, vous préférez les avoir comme amis. Parce que ce ne seraient pas des bons ennemis. Vous devez vous préparer à combattre pour protéger l'église. John Wesley a dit, si vous êtes dans l'église et vous ne protégez pas l'église, c'est comme un homme qui plante un jardin et il ne bâtit pas une clôture autour pour protéger contre les cochons d'Inde. Les cochons sauvages. Parce que s'il n'y a pas de clôture, le jardin va être attaqué. Et si vous lisez les histoires de John Wesley, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont disputées avec lui. Ils ont parlé de mal sur lui. Il y avait un homme appelé John Fletcher et beaucoup de personnes. C'était une expérience terrible pour lui. Et il a traversé toutes les tempêtes. Et il a pris son cheval aux alentours des années 90. Et il disait, c'est moi aujourd'hui, ils applaudissent pour moi aujourd'hui dans cette ville. Et la dernière fois qu'il était là, il le lapidait, oui. Il était surpris. Oui. Mais une des choses que vous noticiez avec John Wesley, c'est qu'il était dur. Oh oui. Dur. Vraiment très dur. Il continuait. Il y avait une femme qu'il aimait. Et quand il voulait la marier, son frère, je pense que la femme, il pensait que la femme c'était une classe moyenne, une classe basse. Et c'est comme si il a donné la femme, il a conseillé la femme d'aller vers son ami, de marier cette autre personne. Quand John Wesley a découvert ça, ils avaient déjà officié le mariage déjà. Et ça, c'est la partie entre lui et son frère. Il a dit à son frère, à partir de maintenant, il va traiter avec lui comme quelqu'un qui est comme un citoyen de la ville, comme une personne quelconque de la ville. À partir de ce jour, ça l'a brisé. C'est pour ça que quand la nouvelle femme est venue, il a dit à personne. Il a dit non. La dernière fois, j'ai partagé mes secrets personnels et mon cœur avec des gens. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Et donc, quand cela est venu, j'ai dit, regarde, marie telle personne, c'était une veuve, plus de 40 ans, 42 ans. Et il a dit, je vais te marier. Et puis, c'est juste marié. Et elle était quelque chose. Elle était terrible. C'est une femme terrible. Oui. Il est sorti, il est directement dans le feu. Et il a souffert avec elle. Comme s'il souffrait avec un anaconda qui était plus grand que toi. Toute sa vie. Mais il était dur. Il a dit à sa femme, tu as fait plus de dégâts envers moi dans le ministère que ce que 1000 personnes pourraient faire, ce que toi tu as fait. Et quand elle est partie, il a dit, je ne l'ai pas viré, et je ne vais même pas la rappeler, je ne vais pas demander de revenir. Il était dur. Hey! Et donc, les démons vont venir vers vous, et les démons vont vous défier tout le long de la route. Tu veux travailler, tu veux servir Dieu? Hein? Donc, tu dois être prêt. Psaume 144. Bénis l'Éternel ma force qui enseigne mes mains, mes bras à combattre et mes doigts à se battre. Donc, vous voyez, Dieu va vous enseigner à vous battre sur la guerre et sur à vous battre. Pourquoi? Parce que dans le fait d'être appelé, vous êtes appelé. C'est sur le fait d'être appelé, vous êtes appelé. Mais vous allez vous battre pour chaque partie de votre appel. Et à partir du moment où vous allez arriver à la fin de votre ministère, on pourra pointer dans le ministère à différentes blessures et différentes cicatrices. Hannibal. Vous savez, Hannibal. Il était du Maroc. Et il a pris des éléphants. Et il a attaqué l'Italie. Il est autour de la montagne. Et vous savez, si vous souvenez, la montagne en Italie, c'est comme une chaussure qui descend comme ça. Si vous regardez la carte de l'Italie, pardon, vous allez, c'est comme une chaussure. Vous ne souvenez pas? Vous n'avez pas fait la géographie, ça fait pitié. Mais pour aller en Italie, c'est comme une chaussure comme ça. Et donc, vous descendez et Rome est au milieu. Et donc, il allait en haut et il a traversé des montagnes. Et il allait avec des éléphants. Et il est allé dans les montagnes avec quelques éléphants. Et il a attaqué nombreuses fois Rome. Et il a amené Rome à ses genoux. Et il est entré, il allait dans Rome. Et c'était comme son quartier général. Maintenant, une fois, il marchait avec son éléphant au travers de... dans un marécage. Et donc, il y a une abeille qui est entrée dans son œil. Et donc, quand vous voyez la photo de Hannibal, vous voyez avec un œil. Et le fait qu'il ait un œil, c'est un cible, c'est un symbole de ce que tu as traversé, ce que tu as souffert. Quel combat est-ce que tu as combattu? C'est pour ça qu'il a un œil, parce qu'un œil, c'est l'abeille qui est entrée dans son œil. Et l'œil entier était perdu. Il n'était pas capable de tuer ça. Il a mis Rome à ses genoux, il les a combattus avec des éléphants, il a tout fait, la nuit et tout ça, il a fait trop de trucs bizarres. Il enseigne mes mains à se battre. Pour ton appel, c'est sûr. Que Dieu te veut, c'est sûr. Sinon, tu n'aurais pas le désir d'être là ou d'écouter ce que je dis. Pour que Dieu t'appelle, mais il enseigne mes mains à combattre. Le bon général. Dieu m'a donné une révélation sur ce livre. Il m'a demandé comment est-ce que je peux combattre des démons. Et le Seigneur m'a montré tous les chapitres dans ce livre, c'est comment combattre des démons. Vous voyez? Appliquez ça contre les démons, vous allez voir. Si vous prenez un chapitre qui dit maintenir le but, c'est combattre directement certains démons qui viennent avec des stratégies à long terme pour vous détruire. Et parce que j'ai maintenu le but pour bâtir des églises, ceci, cela, ça combat en fait certaines attaques démoniaques qui ont été lancées. C'est comme si ces choses-là ne peuvent pas fonctionner. Oui, si vous prenez n'importe quelle, par exemple, unité à tous les niveaux, ça le fait. Oui. Votre plus grande erreur, c'est de traiter avec l'ennemi avec l'esprit de bénévolence. Vous voyez, quand vous arrivez à un endroit, vous n'avez pas besoin de traiter avec un ennemi avec l'esprit de bénévolence. Vous combattez extrême avec extrême. Et c'est là où vous voyez des choses comme les malédictions venir et des certaines prières avec des autorités spirituelles. Un jour, j'entendais un pasteur, il a donné un témoignage, il a dit, tu vois, ma vie a changé, mes évêques, il a élevé sa main, il a dit, ma couverture est ôtée de toi. Ma couverture est ôtée. Et c'est ce que Paul a fait à certaines personnes qui l'accompagnaient. Il a dit, il les a remis au diable afin qu'ils n'apprennent pas à blasphémer. Satan va les enseigner. Tu vois, dans tous les chapitres que je peux traverser, tu vas voir, c'est anti-démon. N'oubliez pas la guerre en temps de paix. Un bon général est l'inexorabilité. N'abandonnez jamais. Différents chapitres. C'est plus important de surmonter votre ennemi que de le combattre. Attendez à ce que le diable envoie une femme comme ennemi. C'est une attaque démoniaque contre vous. Cette chose vous combat. Si vous prenez ça chapitre par chapitre, vous allez traiter avec les démons à long terme, des mouvements démoniaques, des mouvements d'ordre d'esprit, des mouvements de troupes, des ennemis contre votre âme, contre votre ministère, contre votre église, contre les choses à venir dans le futur. Un bon général utilise l'argent comme arme. Bâtir, combattez en bâtissant. C'est antidémoniaque. Les églises qui ont bâti, même si vous n'avez pas des églises, partez, mais l'église, elle reste là. Tu peux pas enlever les bâtiments. Nombreux orangou auraient éparpillé l'église si on n'aurait pas les bâtiments, je le sais. Parce qu'ils savent qu'ils combattent quelque chose qui est grand. Et donc les plans à long terme démoniaques ne sont pas capables de marcher. Attendez à ce que votre ennemi vous assassine. Le diable est un tueur. Vous devez vous attendre à une attaque démoniaque qui va vous essayer de vous tuer au travers des choses médicales, au travers d'autres accidents, voilà marmé, quoi que ce soit. C'est une attaque démoniaque. Et vous allez voir que ce sera. Si ça se passe, vous allez voir que c'est une œuvre démoniaque qui s'est passée. Oui. Nombreuses. Identifier les ennemis dangereux et déclarer-leur la guerre. Identifier quoi? Les ennemis dangereux et déclarer-leur la guerre. Il enseigne mes mains à la guerre. Un bon général est imprévisible. Nombreuses choses. Et donc, obtenez cela, un bon général. Ce livre, hein, il va me bénir. Retour à notre sujet. C'était quoi le sujet de Kamou déjà? Pas un novice. Magnifique. Et donc, Dieu nous prend et il nous avertit sur la traîtrise et la déloyauté et les choses qui sont faites pour vous bloquer et vous rendre inutile dans le ministère. Vous savez, un jour, j'ai rencontré un pasteur et il a dit la loyauté, surtout qui parle de la loyauté. Il a dit, c'est pas quelque chose qu'on enseigne, c'est quelque chose qu'on commande, c'est comment tu conduis, c'est ton style de leadership, c'est, ça monte, ça inspire à la loyauté. C'est pas quelque chose qu'on enseigne. J'ai dit, waouh. C'est un enseignement antidémoniaque. Et vous avez remarqué que alors qu'il a critiqué mon enseignement, c'est à cause de l'étape du ministère dans lequel il était. Et plus tard, quand il a eu une expérience avec ce genre de personne, vous ne pouvez pas croire que la personne la plus proche dit des choses derrière votre dos. Un jour, j'ai rencontré un pasteur, il m'a dit, des voleurs sont entrés dans sa maison. Et quand les voleurs sont, où il est entré dans la maison de quelqu'un, elle a dit que lui, il était en train de parler dans le bureau. Et la personne a dit à quelqu'un que le pasteur a dit que vous avez organisé le vol les voleurs pour qu'ils viennent dans la maison. Et donc, alors qu'il était là avec son membre de l'église, le membre de l'église, il a dit en commentaire à l'intérieur que cet homme a amené, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, s'il les a appelés ou comment est-ce qu'il a fait, mais il a fait en sorte que les voleurs viennent. Quelqu'un dit ça. Alors qu'il pense que c'était la personne principale. Peut-être qu'il a fait un commentaire, je ne sais pas. Mais c'était présenté. Ce frère, quand il me parlait, il ne dansait pas. Hein. Il commençait à trembler. Oui. Il commençait à bouger comme ça. Alors qu'il pensait, alors qu'il parlait de ça, il commençait à trembler. Vous savez, Benny Hinn a dit quelque chose. Il a dit, un jour, il était avec l'assistant de Catherine Kuhlman. Et il a demandé, qu'est-ce que Catherine Kuhlman appréciait? Il lui a dit, elle a dit, pourquoi est-ce qu'elle est morte? Il a dit, elle est morte parce qu'elle a été trahie. Et puis, elle ne pouvait pas supporter cela. Et ça a brisé son cœur. Elle ne pouvait pas supporter ça. Elle a été trahie par nombreuses personnes. Celui-là, le pianiste aussi, tellement de personnes. J'avais l'habitude de les voir à la télévision. J'arrive même plus à les voir à cause de Catherine. Mais voyez, en certaines étapes, vous n'allez pas voir ça. Mais au bout d'un certain état, vous allez voir cela. Mais j'aimerais juste dire que vous voyez que le ministère ou votre appel sera combattu. Ça ne va pas aller librement. Ça ne va pas aller librement. Jamais. Ça va être combattu. Tout à votre sujet sera combattu et combattu et combattu et combattu. Vous savez? Si vous allez marier quelqu'un et ils disent on veut tester votre capacité à cuisiner. On veut sentir si votre corps a des odeurs. On va tester plusieurs aspects. C'est comme ça. Quand vous êtes novice, viens à Dieu et dis oui. On va te mettre tout au long du trône. Tu vas être plus haut que les anges et tout ça. Mais on va te tester très bien. On va te tester sévèrement. Pour voir s'il était qualifié pour être à cette place. Parce que vous allez marier le roi. On doit t'observer pour voir ce que tu es. Tu sais sourire. Tu ne peux pas venir avec un visage fermé, un visage fatigué. Avec un corps qui sent. Tu ne te laves pas. Tu fermes ton visage, tu sens, tu viens là, tu sens plein de choses, plein d'odeurs. On va bien te tester. Plein de choses seront testées pour voir si tu es approprié. Parfois, on va tester ton langage, comment est-ce que tu parles. Prononce ceci, dis ces mots. Hey! On parle pas comme ça dans le palais. Oui. Quand Meghan Markle était allée se marier, Marble, on lui a donné des règles, oui. Elle devait être baptisée. Oui. Tu peux pas venir en étant ne pas être anglican. Ils lui ont enseigné comment manger. Tu ne peux pas commencer à manger avant la reine. Tu ne peux pas dire je ne mange pas. Numéro 1, déjà 1. Tu ne peux pas dire je ne mange pas. Et de 2, tu ne peux pas manger avant la reine. Et quand tu as fini de manger, tu ne peux même pas continuer de manger. Oui, il y a certaines couleurs que vous ne pouvez pas porter certaines couleurs pour venir dans sa présence. Je pense que tu ne peux pas porter le noir, quelque chose comme ça. Tu ne peux pas tourner ton dos et sortir. Tu vas te tenir comme ça et sortir comme ça. Ok. Et le dernier pour aujourd'hui, Esther était une novice. Oui. Quand les vierges étaient rassemblées, dans Esther chapitre 2, vous connaissez l'histoire. Quand les vierges étaient rassemblées ensemble pour la deuxième fois, et Mardoché était assis au portail du roi et Esther ne s'était pas montrée à son peuple. Car Mardoché lui avait interdit et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À ce moment-là, Mardoché était donc assis à la porte du roi. Bigan et Thérèse, deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Assuérus. Et donc Esther était faite comme une nouvelle reine. Vous savez l'histoire. Esther, quand, quand le roi il a dit à la première femme qu'il avait, viens voir mes invités, il y a des gens. Puis il a dit, oh moi je ne sens pas à venir. Puis vous savez quand vous êtes là, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas comme si à la maison. Et donc elle n'est pas là, elle est loin, elle n'est jamais là. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas aux gens, aux invités. Elle ne parle pas aux personnes qui sont là. Elle fait les choses privées. Elle n'est même pas dans la salle. Sa présence change l'atmosphère. Elle ne parle pas bien avec les gens. Elle ne parle pas bien avec les personnes avec toi, qui tu parles bien. Elle ne parle pas bien généralement. Est-ce que tu écoutes? Et c'est comme ça que Vashti était. Et donc, il l'a appelé. J'ai des visites, j'ai des invités, j'ai une fête et tout ça. Oh, moi, ça ne m'intéresse pas. Elle n'est pas venue. Il dit, moi, je viens pas. Je lui montre. Va voir. Il m'appelle comme ça. Et c'était trop pour le roi. Il a dit non. Il dit, ah, il pense que je vais la divorcer. Il s'est dit, ah, moi je montre aux gens que j'ai pas peur de divorcer ma femme. La plupart des gens, ils ont peur, des maris, ils ont peur de divorcer leur femme. Quelque chose que ça prend, quelque chose que la chose que ça prend, ils ont peur de divorcer leur femme. Ça demande un grand courage de divorcer. Parce que les gens ne vont pas te supporter. Quelle que soit la chose, quelle que soit la raison, il a fait ceci, cela. Oh, ils vont juste te dire, ah, mais toi aussi, t'as pas vu ça déjà auparavant? Remets-toi bien. Pardonne, juste pardonne. Ah. 7 fois 77. 70 fois 7 fois. Toi, comment ça peut être que tu ne peux pas pardonner? C'est quoi? Oh. Vrai ou faux? C'est comme ça que les gens parlent. Et c'est comme ça qu'ils pensent. Et donc, ça demande un grand courage. Et donc, il a eu de nombreux conseils. Il a dit, change là. Et donc, et là, Esther était amenée. Et quand Esther est arrivée, tu as laissé une novice. Une novice, c'est quelqu'un qui est nouveau. C'était une débutante. C'est quelqu'un qui a fait ce travail pendant un court instant. Elle n'était pas expérimentée. Elle a surmonté le fait d'être que ça une novice en écoutant Mardoché. Et elle a obéi à Mardoché comme quand elle était élevée par lui. C'est là où elle a la manière dont elle a obéi à Mardoché. Elle a obéi à Mardoché même en tant que reine. C'est pas juste qu'elle a obéi à Mardoché quand elle était élevée par lui, mais même quand elle est transférée au palais pour être la reine. Lis ce que la Bible dit. Ça dit que Esther respecter ses ordres. Ça veut dire que quand il disait fais ceci, elle remplissait les ordres de Mardoché. Comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Parce qu'elle était orpheline, elle était avec son oncle Mardoché. Et donc, quand tu maries quelqu'un qui n'a pas de Mardoché, par défaut, ça va être mauvais. Si tu veux écrire cela, je te dis, ça va être mauvais. Quand les gens n'ont personne pour les commander, commence-toi comme ça. Fais ceci, fais cela. Regarde cela. Pas de conseils, des commandements. C'est pas des conseils, des commandements, des ordres. Fais cela. Fais cela. Pas de discussion, pas d'opinion. On te dit, fais ceci, fais cela. Si tu n'as pas, c'est fini pour toi. Vashti n'avait pas de Mardoché. Elle avait juste sa pensée ou elle avait d'autres femmes. Est-ce qu'elle avait d'autres femmes? Voyons ça. Observons. Regardons tous ensemble. Prends ta Bible, c'est une étude biblique. Allons dans Esther. Observons et voyons.
Ah. Also, Vashti the queen made a feast for the women in the royal house.
Et de son côté, la reine Vashti organisa aussi un banquet pour les femmes du palais. Le septième jour, placé dans de joyeuses dispositions par le vin, elle, pendant qu'il y avait le roi, il y avait une fête, elle faisait une fête avec d'autres femmes. C'est comme un mouvement de femmes, mouvement féministe. Verset 1-9. Vashti faisait également une fête pour les femmes dans la maison royale qui appartient au roi. Elle ne savait pas que la maison dans laquelle elle organisait ça, ça appartenait au roi. S'il vous plaît, je n'ai pas écrit la Bible. Ne savez pas qu'on connaît contre moi. J'ai dit, prends ta Bible. Moi, je n'étais pas sûr également. J'ai dit, vous laissez vérifier. Ça, c'est prends ta Bible, étude biblique. C'est après que c'était fait virer qu'elle s'est rendue compte que c'est la maison du roi. Il y a des gens, quand ils font certaines choses, mais ils ne savent pas qu'ils font ça sous sa couverture. Et s'il enlève sa couverture, tu es fini. Elle a fait une fête pour les femmes. Peut-être qu'elles ont contribué. Elles ont eu la sagesse des femmes. Non, non. Oh, c'est pas juste d'appeler. Non, ça se fait pas un mari alcoolique quand tu es rempli d'alcool, quand tu es saoul et tu es là, tu cries et tu es là dans ton endroit comme un homme stupide. Et tu es là, tu es là, tu t'es venu et tu exprimes la stupidité. Nya. C'est la dernière fois qu'elle a dit nya. C'était la dernière fois. Il y a toujours un dernier jour de ta folie. Et là, c'était ça. Et elle a perdu son travail. Et là vient une petite fille. Elle ne savait pas se comporter. Toutes les femmes qui vont se marier, elles doivent avoir la tête que je ne sais pas. Parce qu'une femme mature, âgée, elle parle d'une manière plus profonde qu'une fille qui vient juste d'arriver. Parce qu'elle parle différemment, elle voit les choses différemment. Parce qu'elle vient de quelque part et puis elle sait de quoi elle parle. Et donc, pas être un novice, c'est très important pour toute votre vie. Souvenez-vous qu'à chaque fois que vous êtes dans une nouvelle condition, ne soyez pas impressionné numéro 1. Ne soyez pas impressionné par les mauvaises choses. Amen. Ne vous querellez pas sur les mauvaises choses comme les apôtres ont fait. Ne recherchez pas les mauvaises choses. Ne soyez pas au courant de la déloyauté comme les apôtres. Et quand Dieu vous bénit et que vous devenez une madame, YZ, on a déjà X. Donc quand tu deviens madame Y, madame Z, madame J, souviens-toi que c'est une bénédiction et c'est un honneur. Le groupe commun qui oublie que c'est un honneur sont les femmes des pasteurs. Elles oublient rapidement l'honneur qu'on leur a donné. Elles oublient. Et rapidement. Et très tôt. Parce que tous leurs péchés sont faits en secret. C'est vrai qu'on a un chant. Dieu va vous juger. Dieu va te juger. J'ai un nouveau chant qui s'appelle La Veuve Amère. Toi, attends et tu verras. Parce que Dieu va te juger. Et les gens qui n'ont pas apprécié ce qu'ils ont, certains vont se tourner en des veuves amères. Et tu vas voir ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne vas pas apprécier. C'est là où, c'est quand c'est amené. Et tu vas voir l'amertume de ton âme. Que tu vois que tu étais une bénédiction. Mais c'était une bénédiction, mais tu as pas donné de regard pour cela. Et à cause de ton mauvais comportement, tu as méprisé cela. Et tu sais que ça va sembler comme méprisant. Et donc, observe. Ne blaguons pas avec les belles choses que Dieu nous a données quand vous êtes nouvellement dans la position. C'est pour ça que Dieu m'impressionne toujours avec les personnes âgées, les pasteurs. Quand je parle avec cette pasteur, je me dis, quelqu'un m'a demandé, comment ça se fait que tes amis sont beaucoup plus âgés? Et je lui ai dit, tu sais, la plupart du temps, quand tu sors avec des personnes beaucoup plus élevées, c'est que ça montre que tu as traversé une génération et ça montre une certaine sagesse. Parce que c'est seulement une certaine sagesse qui va t'aider à traiter, à ce que tu vas faire que les gens traitent avec toi. Parce que les gens vont se dire, ah, mais ce gars, il ne sait pas de quoi il parle. Et cet homme, il a à peu près 80 ans. Et il me dit, ça demande quelque chose pour traiter plus haut, parce qu'il aurait pu être mon père. Je traite comme un père. Et donc que Dieu vous donne la sagesse, afin que dans votre nouveauté, vous voyez comment vous allez devenir avec la sagesse, rechercher la sagesse et dans toutes les circonstances que Dieu vous donne. Vous savez que Dieu vous donne quelque chose de grand, quelque chose de beau, mais à moins que vous tombez dans la, si vous tombez dans la même condamnation du diable à cause de l'orgueil, soyons humbles et reconnaissants pour ce que Dieu a pour vous. Ne prenons pas la légère que ce qu'on a, ça ne peut pas être pris de nous. Non. La bonté de Dieu me conduit vers la repentance. La bonté de Dieu me conduit vers la repentance. Dieu va juger. Il a déjà commencé à juger. Et il va juger pour les choses que on a pris à la légère. Oh Seigneur, ça va toujours être là. Ça ne va pas toujours être là. Il y a des gens qui m'ont pris à la légère. Dieu les juge de m'avoir pris à la légère. Oui. Parce que c'est comme si c'était rien. Oh, c'est l'évêque, quoi, c'est là. Non. Oh, c'est Dieu qui juge. Oui. Ne prends pas les choses à la légère. Ne prends pas les livres à la légère. Combien de livres tu peux lire? Les livres que tu peux lire. Quand tu lis, tu comprends. Les chants que tu peux comprendre. Les prédications que tu peux comprendre, les réunions de prière, nombreuses choses. C'est comme, oh, cette chose est là. Non. Une des manières dont Dieu fait que vous reconnaissez cela, c'est de le perdre. C'est de le perdre, oui. Afin que vous voyez que, ah, j'avais ça avant. Mais toi, tu traites ça comme si c'était rien. Toi, ça fait caca dessus. Que tu ne sois pas un novice qui est jeté comme le diable, qui était jeté comme une branche asséchée. Dans le nom de Jésus. Amen. Prions. Joyeuse fête des pères. Levez-vous. Toutes les saintes mains levées vers le Seigneur. Lève ta main et remercie Dieu. Père, nous sommes reconnaissants pour ta puissance, ta bénédiction, ta bonté. Conduis-nous. Ne nous conduis pas dans la tentation. Délivre-nous du fait de tomber dans les mêmes erreurs que le diable, dans lesquelles le diable est tombé. Nous demandons au nom de Jésus. Nous élevons nos mains et nous prions. Priez simplement en langue pendant un moment. Gloire à Dieu. toutes les nouvelles positions dans lesquelles nous entrons, Seigneur, nous te remercions. Car tu nous montres comment ne pas tomber dans la même condamnation du diable. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les novices grades soient promus. Enseigne-nous à combattre afin qu'on puisse être promus. Dans le nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Vous pouvez prendre place. Prenez votre merveille.
Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté ce message. Visitez dagiwamuse.org aujourd'hui pour plus de messages audio et vidéo, informations sur les événements à venir et beaucoup plus. Assurez-vous de vous abonner à ce podcast pour recevoir de nouveaux messages chaque semaine. Et souvenez-vous que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour.